Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 28 janvier 2024 et nous sommes toujours dans un monde absolument fantastique, hein. Vraiment, ça rigole dans tous les sens, tout va bien. Bon, le S&P 500 n'a pas terminé au plus haut de la semaine. On a terminé un peu dans le rouge aux États-Unis malgré les excellents chiffres économiques qu'on a eu droit vendredi encore. Mais par contre, alors en Europe, c'est champagne et cotillon. Alors en France, les agriculteurs sont dans la rue, plus personne ne peut se déplacer sans rouler en tracteur, mais par contre le CAC 40 est au plus haut de tous les temps parce que monsieur Bernard Arnault, triple chevalier de la Légion d'honneur, a donc annoncé des chiffres plutôt corrects et puis que finalement ça se passe pas trop mal dans le luxe et puis que lui il est plutôt optimiste. Tu m'étonnes, avec 180 milliards sur le compte, il y a de quoi être optimiste. Apparemment c'est contagieux puisque tout le monde trouve ça génial et que le marché termine une semaine en fanfare. Les chiffres sont excellents, la croissance est formidable, les taux d'intérêt, peut-être il y a même une chance qu'il baisse en mars. Enfin bref, c'est un paradis sur Terre. J'ai presque l'impression de me retrouver exactement dans le même type de marché qu'on était en mars de l'an 2000. Pour ceux qui n'étaient pas là en mars de l'an 2000, je vous laisse vérifier ce qui s'est passé en avril de l'an 2000. Mais bon, on va pas se prendre la tête avec des mauvaises périodes, on va pas se prendre la tête avec des mauvais souvenirs, on va être positif et on va se contenter de toutes les choses merveilleuses qui nous arrivent dans la finance. Maintenant qu'on a compris que de toute manière, Wall Street et Main Street, ça n'a plus rien à voir, on disait à l'époque que forcément les marchés financiers étaient l'image d'une économie, c'est plus du tout le cas, c'est l'image d'un délire total puisque tout va bien. Il suffit de rajouter en plus de la techno et de l'intelligence artificielle là-dessus, et c'est un monde fantastique. Donc, si on revient rapidement sur ce qui s'est passé la semaine dernière, tout d'abord, on a eu le PIB américain qui est meilleur que les attentes, nettement meilleur. Donc ça va super bien, l'économie américaine est hyper strong. Merci monsieur Biden. Lui, il sait pas trop ce qu'il fait parce qu'il sait même plus comment il s'appelle, mais grosso modo, tout ce qu'il fait, c'est formidable. L'économie US cartonne, très bonne surprise, pas de récession à l'avenir, aucun souci de ce côté-là. Mais par contre, on peut se poser des questions sur la baisse des taux. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir du PIB. Mais ça nous a quand même redonné un coup de peps en se disant « Ouais, qu'une économie pareille, franchement, rien ne peut nous arriver. » Et puis ensuite, on a eu les jobless claims. Là aussi, les chiffres de l'emploi montraient que l'emploi faiblissait petit à petit, ce qui veut dire que finalement, la Fed pourrait quand même devoir à terme baisser les taux pour essayer de soutenir cet emploi. Et il voulait voir l'emploi faible. C'est fait. Ah, Eureka! Je rappelle quand même, les jobless claims, c'est hebdomadaire, donc ce qui veut dire que ça peut changer la semaine prochaine. Maintenant qu'on a compris le truc et qu'on commence à baisser nos attentes, eh bien, ça va un petit peu mieux. Et puis autrement, alors on attendait l'inflation en fin de semaine, le PCE, ce fameux chiffre, le chiffre préféré de la Fed. Pas facile à interpréter, grosso modo, si on regarde par rapport à la même période l'année dernière, eh ben c'est un petit peu plus fort, donc c'est un peu inflationniste quand même. L'un dans l'autre, si on regarde les chiffres annualisés, ça baisse gentiment. Bref, il y a à boire et à manger dedans, on va pas perdre de temps à les décortiquer de toute manière, ils sont déjà oubliés. On s'est pris la tête toute la semaine pour avoir les chiffres du PCE, on les a eus. Passons à autre chose maintenant, ils étaient, on va dire, pas trop mauvais, puisque finalement, quand on regarde, le plus intéressant à observer, finalement, c'est cette espèce de les futurs sur les prochaines décisions de baisse des taux. Vous savez qu'il y a ces moyens de deviner ou d'anticiper ce que le marché attend sur les taux d'intérêt. Alors, avant, au tout début de l'année, on avait 80% de chances de voir les taux baisser en mars. Puis après, avec les premiers chiffres de l'inflation, c'est-à-dire que finalement, on était plutôt proche des 39%, puis des 35%. Et puis là, avec les chiffres du PCE de vendredi, peu importe comment on les interprète, peu importe comment on les lit, ben tout d'un coup, c'était moins mauvais. Moins mauvais, donc hop, 50% de chance de voir une baisse des taux en mars. Les gars, ils en ont aucune, mais aucune espèce d'idée. Ils changent d'avis toutes les 3 jours avec un chiffre différent. Bref, on n'en sait rien. On va dire que là, on est vraiment fixé. Il y a une chance sur deux qu'ils baissent les taux en mars. Là, on progresse de plus en plus. C'est très très clair. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché est noyé dans les interprétations des chiffres économiques, est noyé dans les données qu'on nous vend et comment on les digère, on les analyse. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on voit vraiment le verre à moitié plein, on est super optimiste. Et ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est que La majorité des résultats, même si ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, sont plutôt pas mal. On l'a vu la semaine dernière avec Netflix, on a une grosse déception sur Tesla, grosse déception sur Intel, mais l'un dans l'autre, le reste, ça va pas trop mal. Et on signalera surtout, effectivement, ce secteur du luxe qui nous a pété à la figure en fin de semaine, qui était quand même juste impressionnant. Alors, ils n'ont pas annoncé non plus qu'ils se lançaient dans l'intelligence artificielle, hein, ni Richemont, ni LVMH, ni Kering, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ça va moins mal. J'ai lu des commentaires sur le résultat d'LVMH, c'est à se rouler par terre de rire, parce que finalement, on nous dit « Ah oui, finalement, la Chine, c'est pas si grave, parce qu'ils ont bien pris leur positionnement aux États-Unis. » Donc en fait, à la place de vendre des sacs en cuir moche aux Chinois, ils vendent les mêmes sacs en cuir moche aux Américains, mais plus, parce que eux, ils ont une économie qui cartonne. Et donc du coup, c'est super. Ce qui justifiait des hausses de 13% sur LVMH, les mecs, ils sont complètement branques. C'est juste hallucinant, le comportement du marché. On l'a vu la semaine dernière, c'était du délire. Hein. Je suis désolé, mais jeudi matin, LVMH publie les chiffres. On a mis pratiquement 24 heures pour trouver que c'était une bonne nouvelle. Et puis, vous avez tout d'un coup les analystes qui ont changé de positionnement. On était complètement obsédés par la Chine. Et on arrive à se contenter de se dire « Ah ouais, mais ça va quand même pas mal aux États-Unis. » Alors imaginez le jour où la Chine repart. Pouah, ça va être facile. Bref, donc du coup, Monsieur Arnaud est un peu plus riche qu'il n'était avant. Il a emmené avec lui tout le secteur du luxe, ce qui fait que le CAC 40 a terminé au plus haut de tous les temps. C'est une fin de semaine absolument mirifique pour le marché français, entre autres, et pour le luxe en particulier. Effectivement, c'était presque plus performant que le secteur de la techno et de l'intelligence artificielle, parce qu'on a quand même toujours 2-3 doutes au sujet de l'avenir de la techno. Et on aura 2-3 réponses, hein, parce que la semaine prochaine, enfin, c'est la semaine qui va nous arriver là, maintenant, tout de suite, là, dans 24 heures, ça va être showtime, parce qu'il va y avoir une avalanche de résultats, et c'est ce qui va surtout impacter le marché pour la semaine prochaine. Ça, et la Fed. Oui, parce que la Fed se réunit mardi et mercredi, et mercredi soir, ils vont donner leurs résultats, mais surtout la conférence de presse, et puis on pourra palper, sentir un peu ce que M. Powell a dans la tête, et là, on pourra faire des nouvelles spéculations pour savoir si on reste à une chance sur deux de voir les taux baisser en marche, ou si on passe à autre chose. Donc, si on doit conclure et résumer ce résumé de la semaine, les chiffres économiques sont formidables, les gens sont formidables, le marché est formidable, les publications trimestrielles sont formidables, Netflix est exceptionnel, Tesla, c'est un peu compliqué, mais le luxe va super bien pour compenser. Et si le luxe va super bien, ça veut dire que les ultra-riches vont super bien, donc tout le monde est content. Et on boucle une très très belle semaine en ton relatif et on regarde tout de suite ce que ça donne en termes de performance. Alors quand vous regardez les performances sur la semaine, alors la première chose qu'il faut noter quand même, c'est la performance du pétrole. Plus 6,57, hein, donc on est super chaud patate parce qu'on se dit « Oh mais ça va beaucoup mieux, tout va bien, l'inflation est sous contrôle ». T'as le pétrole qui prend 7%, je suis pas sûr que l'inflation sous contrôle, ça nous fasse plaisir dans quelques semaines, surtout que techniquement, il est quand même en train de casser à la hausse. Rebond sur le Hang Seng, plus 4,2%, explosion du luxe sur la France. Tout va bien en France, c'est génial, enfin tant que vous n'êtes pas agriculteur, plus 3,56%, le président est en train de se promener en Inde, de toute façon tout le monde s'en fout, et ils ont un préado comme premier ministre, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Shanghai rebondit 2,75%, c'est pas à tous les jours qu'on voit des performances comme ça sur l'indice chinois, il faut donc le signaler, 2,45 sur le DAX, ça va, le SMI qui monte de 2,15%, pardon, on est presque en train de s'emballer. Et puis un petit peu moins d'euphorie aux États-Unis, mais le Dow Jones plus 2%, le S&P plus 1%, le Nasdaq plus 0,94%, le SOX qui corrige un petit peu en baisse de 0,77%. La faute à qui ? La faute à Intel. Et puis au Japon, on notera qu'on n'arrête pas de parler toujours de profit taking depuis le début de la semaine. Profit taking qui nous coûte 0,59% sur la semaine. Il n'y a pas de quoi non plus paniquer majoritairement sur le côté japonais. Néanmoins, vous voyez que la semaine était plutôt pas mal. Les records ont donc été battus aux États-Unis, en France. En Suisse, on est à des années-lumière de battre des records. Mais on ne sait jamais, hein, il suffirait que les gens commencent à se réintéresser à des titres de value et ça pourrait changer. Du côté du SMI, alors on en reparlera tout à l'heure, hein, Lonza plus 17%, j'en parlerai dans les vedettes de la semaine, Richemont plus 10%, Givaudan plus 8,7%, les assurances qui s'envolent, ABB ça va, Gaberit récupère sa mauvaise semaine de la semaine dernière. L'UBS, c'est la meilleure boîte du monde, plus 3,28%. Les pharma foutent pas grand-chose, grosso modo. Et Logitech s'est fait démonter sur la publication de leurs résultats, puisqu'ils ont été quand même plutôt prudents pour la suite des événements. Voilà, une relativement bonne semaine néanmoins sur le SMI. Et puis alors, une explosion de joie du côté de chez Lonza, qui a publié ses résultats, mais on va y revenir, c'était très très drôle. Sur le SMI, alors vous voyez, alors vous vous souvenez de cette fameuse tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis un moment, qui passe par là, qu'on avait réussi à récupérer après le trou ici, et on consolidait pendant quelques temps. Et depuis la semaine dernière, on a cassé cette espèce de nouvelle résistance, donc on fait un plus haut relatif, hein, vous voyez, sur les 11 390, on a été testé les 11 400 la semaine dernière, qu'on n'a pas réussi à casser. Il va falloir aller les chercher, parce qu'on est allé déjà tester des choses comme ça à l'époque. On espère qu'on arrive à relancer de nouveau cette dynamique. Mais vous voyez, on a de nouveau un peu d'intérêt sur le SMI. Très belle semaine pour le SMI. De 15%, c'est pas toutes les semaines que ça se produit. Mais on a cassé cette espèce de mini consolidation latérale. Donc on a l'air de vouloir donner une sorte d'accélération sur l'indice suisse. Et alors en France, hein, c'est que du bonheur, vous le voyez. Donc vendredi, je vous fais pas un dessin, hein, c'est simplement le luxe qui nous a tout pété à la hausse. Le CAC 40 qui passe de 7459, où il se traîne quand même depuis pratiquement 3 semaines, un mois. On est collé dans ce range entre 7350 et 7450. Et là, tout d'un coup, Très bonne nouvelle. Encore une fois, les résultats de LVMH sont ce que vaut bien les interpréter. Mais c'est les commentaires de Monsieur Bernard Arnault, notre messie à tous, qui a donc emballé le luxe. On avait déjà eu Richemont qui avait poussé tout le monde à la hausse il y a quelques jours. Et là, rebelote avec les résultats de LVMH qui étaient... Et c'est vraiment assez marrant parce qu'ils ont publié ça jeudi matin, et finalement ça a vraiment réagi vendredi, et on termine donc au plus haut de tous les temps sur le CAC 40. Dans ce genre de configuration, si on arrive à consolider et à monter plus haut, effectivement on voit assez mal ce qui pourrait arrêter le CAC 40, surtout que pour l'instant, Kering n'a monté qu'un petit peu puisqu'ils n'ont pas encore publié leurs résultats. Mais quand tous les autres vont commencer à dire que c'est génial que les Américains ont repris la consommation des Chinois, eh bien, ce sera formidable. Puisqu'on parle des marchés européens, notons quand même que la BCE a parlé jeudi pour dire rien. Donc, ils ne montent pas les taux pour la troisième fois consécutive. On ne sait pas s'ils vont les monter ou s'ils vont les baisser. On n'a aucune idée. Donc, c'était un non-event notoire. J'en ai déjà parlé cette semaine dans le Morning Bull Live. Voilà, en gros, l'effet BCE, il était là, c'est-à-dire zéro, et par contre, l'effet LVMH, il se terminera ici. Le S&P 500, bah voilà, record historique, hein, c'est écrit en gros, on peut pas le rater. Que vous dire de plus ? On est monté au plus haut de tous les temps parce que finalement tout le monde est chaud bouillant sur toute la thématique, encore une fois, de la techno, de l'intelligence artificielle. Vous avez la plupart des gros titres qui continuent à être relativement bien recherchés. Comme on le disait, on verra la semaine prochaine ce que ça donne. Mais enfin voilà, S&P 500, record historique, cassure à la hausse, potentiel, tout le monde va aller chercher les 5000. Psychologique, hein, on sait qu'aux États-Unis, on aime bien les chiffres ronds, donc moi je pense qu'ils sont déjà en train d'imprimer les casquettes et les t-shirts, 5000 points sur le S&P 500, been there, done that. Ça c'est un grand classique, et puis après on pourra en discuter de la suite, mais là a priori on a encore 130 points de hausse à faire sur le S&P 500, peu importe les raisons, on les trouvera parce qu'on veut voir les 5000 et on va les voir. La seule problématique qu'il va falloir se souvenir sur le S&P 500, c'est que l'un dans l'autre, les targets moyens sont entre 5000 et 5100, hein. Si fin janvier on est à 5100 sur le S&P 500, ça va être compliqué, ça va être très très long cette année 2024. Le Nasdaq semble marquer néanmoins un peu le pas cette semaine. Vous voyez que c'était un petit peu moins dynamique. On peut chercher les raisons de la baisse du Nasdaq tout simplement dans les mouvements de Tesla. Tesla qui s'est quand même bien fait déglinguer cette semaine, on en a déjà parlé. Mais voilà, on est revenu en dessous et des zones de support. On essaie de tenir les 180, on a intérêt à les tenir. Et sinon, la porte sera ouverte à toutes les fenêtres pour aller beaucoup, beaucoup plus bas sur Tesla, à moins que Monsieur Musk arrive à régler ses problèmes de participation et de droit de vote à l'intérieur de la société. Néanmoins, donc le Nasdaq a marqué le pas. Il faudra surveiller attentivement parce qu'on a quand même fait un petit reversal à court terme sur l'indice technologique, et avec les publications de Microsoft, de Google, d'Amazon, d'Apple la semaine prochaine et de Meta, ça risque d'être sympathique à voir quand même. Et puis pour terminer, vous voyez que si on parle de reversal, eh bien le SOX a fait un reversal. Alors je veux pas commencer à dire que on peut jouer sur ces quelques quelques points là. La baisse de la fin de semaine, c'est Intel qui a complètement foiré ses chiffres et qui a surtout montré qu'elle avait toutes les peines du monde à s'intégrer dans le business de l'intelligence artificielle, qui fait que ce retournement sur le SOX est extrêmement délicat à manager. Mais faut pas avoir trop peur, hein, parce que le SOX nous a déjà fait plusieurs fois des frayeurs. Et puis finalement, à la fin, comme d'habitude, c'est les Bulls qui gagnent. Alors restons optimistes et surveillons les replis en direction des petits trous qu'on a laissés ici dans les gaps au niveau des 4150, au cas où vous venez retester par là. En ce qui concerne les vedettes de la semaine, parlons du luxe pour entamer la chose. On va commencer par Swatch. Alors Swatch, c'est l'autre boîte de luxe. Par contre, c'est pas aussi rigolo que chez Richemont. Alors les résultats de Swatch étaient inférieurs aux attentes et ils ont expliqué quand même que c'était pas facile. Néanmoins, Swatch se montre relativement optimiste pour l'avenir. C'est ce qui nous sauve néanmoins sur le marché dans l'immédiat. On n'a pas trop aimé les annonces de Swatch. Alors, c'est un petit peu le vent contraire. Richemont a dit « Nos résultats sont un petit peu meilleurs, mais ça s'est relativement bien passé. » On se méfie quand même un peu pour la suite, mais le « relativement bien passé » sur la Chine a suffi à faire bondir le titre. Swatch a des résultats inférieurs aux attentes et vient nous dire « Ouais, ça va bien se passer pour l'avenir. » Plutôt constructif, mais néanmoins, le marché était bien déçu de la performance de Swatch ce trimestre. Swatch a rebondi en fin de semaine à cause du secteur du luxe en général, mais pour l'instant, c'est un petit peu quand même extrêmement déprimant. D'un point de vue technique, si on reprend ces tendances, ces grandes tendances de fond qu'on a ici, on voit que la grande tendance, on a essayé de la casser, mais on est revenu dedans. Et donc voilà, pour l'instant, c'est le falling knife. Il va falloir déjà remonter jusqu'à 214 pour espérer dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Hein, pour l'instant, c'est dead money. Et c'est assez déprimant ce qui se passe sur Swatch par rapport à ce qui s'est passé sur Richemont cette semaine. Logitech a publié des résultats mitigés. Alors, quand on dit résultats mitigés, ça veut dire pas terrible, hein, parce que on a toujours une interprétation relativement positive des choses. Quand on dit des résultats contrastés, ça veut dire c'est plutôt positif, mais mitigé, ça veut dire c'est plutôt merdique. Effectivement, donc c'était un petit peu décevant. Ils ont réajusté leurs expectations, leurs attentes pour le prochain trimestre, donc ils sont plutôt constructifs pour l'avenir. C'est quand même quelque chose qu'il faut retenir, hein, c'est que pour l'instant, la plupart des communiqués de presse qu'on a eu post-publication des résultats sont plutôt encourageants pour l'avenir et plutôt positifs, en tout cas dans le secteur technologique. Et donc ça, il faudra surveiller parce que c'est vraiment un gros point important. Là, ils se sont montrés positifs, mais leur positivisme n'a pas suffi à compenser finalement cette déception sur les chiffres du trimestre passé. Donc résultat, grosse correction sur Logitech, mais Logitech était beaucoup monté. On va dire que c'était des prises de profit parce que les gens le savaient, bien sûr. Donc du coup, prise de profit sur Logitech, mais sale semaine pour eux quand même. Bah, vous voyez, d'un point de vue graphique, c'est assez méchant, mais il faut dire que c'est vrai que ces derniers temps, avec la folie techno, on a quand même eu des hausses comme cette période qu'on a eue ici durant le courant du mois de décembre après le Black Friday. Ça s'est tellement bien passé. Donc du coup, on a annihilé le Black Friday et on est revenu sur les mêmes niveaux à 73. L'un dans l'autre, effectivement, il faudra voir comment ça va se passer ces prochains temps. On peut quand même se dire qu'on a un peu l'impression, enfin c'est un peu le sentiment que j'ai, que Logitech ne se réinvente pas beaucoup ces dernières années et qu'ils font un peu du surplace dans ce qu'ils offrent comme produit. Ce qui fait que peut-être il y a un ralentissement aussi au niveau de ça qui reste un petit peu problématique. Donc il faudra surveiller ces prochains temps comment elle va se comporter. Pour ceux qui aiment la théorie des gaps, il y a de quoi aller chercher beaucoup plus bas. Donc méfiance quand même. On semble avoir digéré les résultats et essayé de consolider sur cette zone-là. J'ai envie de dire que tant qu'on reste au-dessus des 72 francs suisses, il y a encore un petit peu d'espoir sur Logitech. Mais attention à ne pas rentrer dans quelque chose de trop tendance baissière ces prochains temps. Et dans les publications trimestrielles, eh bien, on a eu Givaudan qui ont publié des chiffres d'affaires en baisse, mais une rentabilité meilleure et en hausse et meilleure que les attentes durant l'exercice total de 2023. Par contre, en ce qui concerne les objectifs futurs, ils sont plutôt positifs et c'était assez encourageant la conférence de presse. En plus, ils ont annoncé qu'ils allaient payer un dividende de 68 francs suisses par action. Heureux sont les actionnaires. Et donc, du coup, ça a très très bien passé. La pilule est relativement bien passée, malgré un exercice 2023 un petit peu douteux. Et du coup, on est plutôt optimiste pour l'avenir. Donc il ne restait plus qu'à acheter du Givaudan et c'est exactement ce qui s'est passé. D'un point de vue technique, on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Très bonne interprétation des résultats, très optimiste sur l'histoire, un gros dividende. Et dans la foulée, tout le monde qui est venu upgrader Givaudan pour ses prochains temps, donc l'un dans l'autre, c'était une relativement bonne semaine, hein, puisqu'on revient de très très loin. On a buté pile poil sur la moyenne mobile des 50 jours, avant de repartir comme en 40, parce que l'interprétation de l'avenir était plutôt encourageante chez Givaudan. La théorie du moins pire, ça c'est l'histoire de la semaine. Lonza a donc publié des chiffres pas terribles. Ils ont quand même annoncé que ça allait être très compliqué. Ils ont perdu un contrat, vous le savez, avec Moderna, qui représentait quand même un demi-milliard. Ils vont devoir dans la foulée démanteler des sites de production en Chine qui avaient été prévus, qui avaient été construits. Donc ça, il faut démanteler ça. Ils ont déjà anticipé ces coûts de déconstruction ces prochains temps. Et puis surtout, eh bien, ils ont annoncé le retrait de Albert Béni, qui est le CEO actuel, le patron actuel, qui sera remplacé par Jean-Marc Huët. Donc du coup, on s'est dit, ah ben voilà, c'est un renouveau qui se présente pour Lonza. Donc il suffit de pas grand-chose, des fois, pour dynamiser les investisseurs et se dire, ah ben voilà, on a vu le pire, on a fait le trou, maintenant, il est temps de repartir à l'assaut. Et donc, Lonza a vécu sa meilleure vie la semaine dernière, puisque sur la semaine, le titre prenait 17%. Donc là aussi, vous voyez, ça se passe de commentaires, hein. Les déceptions qu'on a eues auparavant sont compensées aujourd'hui. On a été rebouché le trou qu'on avait laissé là. On a laissé un nouveau trou ici. C'est un titre avec plein de trous d'ailleurs. Donc maintenant, l'objectif, c'est de remonter à 500 balles et des poussières. Là aussi, on a laissé un gap. Enfin, il y a des gaps partout. Donc, on peut espérer que le renouveau avec le nouveau patron et les nouvelles structures et le fait qu'ils aient, en guillemets, coupé ce qui n'allait pas, peut nous laisser un peu d'espoir. On notera quand même qu'on s'arrête pile poil, comme par hasard, sur la moyenne mobile des 200 jours. Donc, de là à dire qu'on aura la force d'aller directement là-dedans, ça va être compliqué. Il faut peut-être s'attendre à une consolidation ces prochains temps sur Lonza. Mais effectivement, quand on voit la réaction du marché, la réaction des analystes, eh bien, on peut se dire qu'on a, allez, anticiper un renouveau et qu'on a un nouveau trend dossier qui est en train de se dessiner gentiment sur la société. Alors vous noterez quand même qu'en Suisse, la tendance en ce moment, c'est plutôt de se dire que finalement, c'est pas extraordinaire ce qu'on publie comme résultat, mais on joue le fait que on a vu le pire et que maintenant on repart à l'assaut. C'est encore l'exemple typique de SGS, SGS qui a perdu son directeur général, avec un nouveau une directrice générale qui reprend, qui revient aussi derrière pour donner un coup de boost. Ils sont en pleine restructuration. Finalement, le bénéfice net n'était pas terrible l'année passée. Ils ont souffert à côté à cause du Francfort. Enfin, quand vous écoutez le communiqué de presse, ben c'est pas extraordinaire sur SGS, mais le marché se dit ah. Ouais, mais là, peut-être qu'on a tourné le coin et que demain, ça sera mieux. C'est vrai qu'on a ce côté tendance à vouloir, on a cette tendance, on l'a déjà vu, dit et répété, à vouloir se dire, ah, mais les choses vont quand même beaucoup mieux et ça ira mieux demain. Alors, c'est vrai que ça ira mieux demain. Des fois, on peut voir la chose d'une manière différente, c'est que c'est tellement pourri dans certains endroits en ce moment qu'on se dit, ah bah forcément, ça va forcément aller mieux. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe sur certaines sociétés. On l'a vu avec Lonza et on le voit également avec SGS. SGS qui, là aussi, malgré une publication qu'on aurait pu qualifier de morose et déprimante, le titre explose en fin de semaine et fait partie des vedettes suisses de la semaine. Donc vous le voyez, hein, ça se passe de commentaires là aussi, on a tout pété sur ces espoirs de renouveau, donc le titre passe de 75 francs pour terminer la semaine à 82 francs, donc explosion chez SGS. Je vous cache pas que j'ai jamais trop aimé ce titre, donc c'est difficile pour moi de vous dire quoi faire là-dessus. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faudra surveiller surtout attentivement ces prochains temps, c'est quand même le fait qu'on a une tendance baissière bien bien affirmée, hein, il n'y a pas besoin d'être analyste technique pour se dire que cet environnement-là, c'est pas terrible, mais que là, on est en train de casser quand même des trucs en ce moment et que ces cassures à la hausse pourraient justifier des débuts de nouvelles tendances. Alors évidemment, c'est difficile de croire que ce genre de configuration va nous emmener monter et monter encore pour retourner directement à 125 francs. Mais néanmoins, on voit que les choses sont en train de bouger et qu'il y a des turnaround situations, comme on dit en anglais, et des situations de changement de direction qui sont en train de se mettre en place sur certaines valeurs. C'est peut-être ce qui nous permettra à terme d'avoir un SMI qui remontera quand même lui aussi au plus haut de tous les temps. Voilà ce que l'on pouvait dire de la semaine dernière, donc semaine extraordinairement euphorisante et euphorique. Tout va très bien et quand tout ne va pas très bien, on a la capacité extraordinaire de l'interpréter d'une manière positive. In fine, eh bien, on termine la semaine de manière relativement spectaculaire sur à peu près tous les indices, surtout en Suisse. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, comme je vous le disais, vous avez à l'instant les résultats qui vont être publiés la semaine prochaine qui s'affichent devant vos yeux. Alors, comme vous le voyez, il y a une pétée de monde. Je vous laisserai vous délecter de cette image pendant quelques instants. Mais évidemment, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est les big names qui vont publier. Le seul Magnificent Seven qui ne publiera pas cette semaine, eh bien, c'est Nvidia, puisque eux publieront, je crois, plutôt dans la direction de fin du mois de février. Mais en tous les cas, pour l'instant, on aura les gros noms. Donc, faudra faire attention parce que Microsoft est au plus haut de tous les temps. Apple est pas loin du plus haut de tous les temps. Les performances sont assez impressionnantes, comme on le sait, puisque c'est eux qui nous ont fait monter le marché en 2023. Reste plus qu'à espérer qu'ils soient capables de délivrer des performances correctes afin de ne pas décevoir. Et s'ils y parviennent, eh bien, on devrait pouvoir avoir notre continuité de bull market encore ces prochains temps. Donc, ce sera le gros suspense de la semaine. Il y aura beaucoup à digérer et on aura l'occasion d'en reparler ces prochains jours. Ce qu'il faut aussi signaler, je vous l'ai déjà dit en cours de l'émission, La Fed se réunira mardi et mercredi, et le 31 au soir, il y aura le discours, la publication, le communiqué de presse de la Fed qui nous expliquera leur vision. Alors ne vous attendez pas à une baisse des taux, ne vous attendez pas à une hausse des taux, attendez-vous à rien, mais surtout, c'est les mots qui seront importants pour nous laisser espérer que lors du prochain meeting qui lui aura lieu autour du mois de mars, 19 et 20 mars ou 20 et 21 mars, et c'est là où on se dit peut-être que cette fois ils vont enfin comprendre qu'on a besoin que les taux baissent. Mais visiblement, et jusqu'à maintenant, les patrons de la Fed, les membres de la Fed, se sont toujours montrés extrêmement dubitatifs quant à la nécessité de baisser les taux immédiatement. On a pour l'instant les derniers feedbacks, c'est plutôt seconde partie d'année. Mais nous, les experts en finance, on continue à se convaincre ou à s'auto-convaincre que c'est pour tout de suite, bientôt. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent dimanche, une très belle journée. Et moi, je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live et la semaine prochaine pour un nouveau, le week-end prochain pour un nouveau Swiss Bliss. Profitez bien, soyez forts et à demain. Bye bye.